Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le blé va-t-il devenir un produit de luxe? À la guerre en Ukraine s'ajoute la sécheresse historique en Inde, deuxième producteur mondial. Les cours s'envolent après la décision de New Delhi de suspendre ses exportations. Et vous l'entendrez chez nous, la baguette pourrait prendre jusqu'à 8 centimes. Au lendemain de sa nomination à Matignon, le défi de la notoriété pour Elisabeth Borne. Nous serons en Normandie, où la nouvelle première ministre se présente aux législatives. Et certains électeurs ont bien du mal à la situer. Dans ce journal aussi, les musiciens d'Eagles of Death Metal attendus au procès du 13 novembre 2015 et un espoir pour la langouste rouge menacée en Méditerranée. Des chercheurs corses ont réussi sa reproduction en laboratoire.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est l'acteur et président du jury du 75e Festival de Cannes, Vincent Lindon. Quand la sécheresse, Alexis, aggrave les conséquences de la guerre en Ukraine.
Depuis l'éclatement du conflit, les approvisionnements en blé étaient déjà sérieusement perturbés, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, très dépendants du blé ukrainien et russe. Tous ces pays comptaient donc sur l'Inde, deuxième producteur mondial. Mais depuis ce week-end, New Delhi suspend à son tour ses exportations. La sécheresse là-bas a pénalisé les récoltes. Les autorités indiennes veulent donc sécuriser leur marché intérieur. Conséquence, un risque de pénurie potentielle pour une trentaine de pays en développement et une envolée des cours sur les bourses, notamment en Europe. 438 euros la tonne hier soir, record historique. Partout, les consommateurs devraient en voir très vite les effets, Mariam El Kurdi.
Si l'Inde vend moins de 10% de sa production de blé aux pays étrangers, la décision d'arrêter ses exportations a des effets immédiats sur les marchés dans un contexte déjà très tendu lié à la guerre en Ukraine.
L'Inde était annoncée comme le sauveur ou en tout cas un remplaçant sur la scène internationale des flux qui ne peuvent pas sortir de l'Ukraine.
Arthur Portier est consultant chez Agritel, cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse des marchés des matières premières agricoles.
Aujourd'hui, il y a 4 millions de tonnes qui ont été vendues mais qui ne sont toujours pas chargées. Et se pose la question de savoir si le gouvernement va annuler ses ventes. Et ce sont ces incertitudes-là qui sont aujourd'hui en train d'animer le marché, puisque le prix du blé prend 15-20 euros la tonne.
Et ce prix atteint un nouveau record. Il y aura donc forcément des gagnants et des perdants.
La hausse des prix va profiter à certains céréaliers. Par contre, pour les éleveurs, c'est une nouvelle fois l'effet ciseau, avec une hausse des coûts d'approvisionnement et de l'autre côté, pour le moment, des prix de produits finis animaux qui n'augmentent pas. Donc, une situation qui est vraiment problématique pour les éleveurs.
Impact également pour les fabricants de farine qui vont donc devoir augmenter encore leurs tarifs auprès des boulangers, explique Jean-François Loiseau, président de l'association des meuniers français.
Cela se traduit par plusieurs centimes sur la baguette de pain. On répercute la hausse des prix, sinon il n'y aura plus de qualité.
Et cette nouvelle augmentation du prix de la baguette est prévue dès cet été. Estimation, plus 7 à 8 centimes.
Et signe de l'inquiétude un peu partout dans le monde face à cette envolée du blé, les États-Unis disent ce matin espérer que l'Inde reviendra sur sa décision. Plusieurs réunions d'urgence consacrées à cette question sont prévues dès cette semaine à l'ONU. Sur le terrain en Ukraine, 260 combattants ukrainiens évacués ces dernières heures de la Syrie Azovstal de Mariupol à la faveur d'une trêve humanitaire. Ils se dirigent pour l'instant vers des zones contrôlées par les Russes, mais pourraient ensuite être échangées par Kiev.
7h33, quel gouvernement autour d'Elisabeth Borne?
À peine nommé, c'est la priorité de la nouvelle première ministre, constituer son équipe dans les tout prochains jours. Deuxième femme seulement à occuper le poste sous la 5e République, elle a dédié hier soir sa nomination à toutes les petites filles et promis aussi d'agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques. Première ministre, mais aussi, toujours, candidate aux législatives. Elisabeth Borne se présente en Normandie, 6e circonscription du Calvados, autour de Vire. Alors comment réagit-on sur place? C'est le reportage de Steven Goyer.
Une pause entre le plat et le dessert pour Anne et Vincent de Virois, la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon.
Non, ça m'a rien fait, non.
Elle ne travaillait pas dans le ministère de la Défense à un moment donné?
Non, je suis en manque d'informations quand même par rapport à elle. Là, franchement...
La nouvelle première ministre revendique ses origines du Calvados.
Eh ben, impeccable, hein. Tant mieux pour nous les Normands. Hein.
De quoi remettre sur le devant de la scène quelques projets locaux repoussés depuis des années. Jackie est commerçant dans le centre-ville.
Depuis le temps qu'on a besoin de quelqu'un d'envergure nationale dans la région pour le développement de toutes les infrastructures qui nous manquent, notamment le relais entre Vire et l'autoroute. avec l'appui d'une telle personne, ça pourrait donner une nouvelle dynamique à notre région.
Elisabeth Borne était d'ailleurs à Vire il y a une dizaine de jours en compagnie du maire de la ville et soutien de la majorité, Marc-André Sabater.
Lors de ces rencontres, bon, j'ai pu apprécier sa capacité d'écoute, sa connaissance des dossiers, évidemment au niveau national mais aussi local, et sa compréhension aussi des enjeux du territoire. C'est important aussi de les prendre en compte au plus haut niveau de l'État.
Et même dans ses nouvelles fonctions, le maire espère qu'Elisabeth Borne maintiendra sa candidature dans la 6e circonscription du Calvados.
Une candidature confirmée ce matin par l'entourage d'Elisabeth Borne. Dans l'opposition, si on se réjouit de voir une femme à Matignon, les critiques n'en sont pas moins sévères. À droite, Éric Ciotti fustige le choix d'une technocrate socialiste. Quant à gauche, le communiste Fabien Roussel estime qu'Emmanuel Macron a trouvé sa Madame Thatcher. Les autres réactions à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr. Ancienne patronne de la RATP, puis ministre des Transports, de l'Écologie et enfin du Travail. Depuis 5 ans, la méthode Borne est déjà bien connue des partenaires sociaux. Alors à la veille de difficiles négociations sur la réforme des retraites, Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, s'attend à de potentiels bras de fer.
C'est une ministre dont je pourrais dire qu'elle est dure en affaires. Quand elle a un dossier en main, en général elle le maîtrise, ça il faut le lui reconnaître, mais pour le coup, elle a du mal à entendre qu'on puisse être en désaccord et à entendre les arguments qui fondent les désaccords. Quand elle est sûre d'elle, il est très difficile de se faire entendre. Nous avons eu parfois la désagréable impression que les décisions étaient prises avant même que l'on soit réunis. Mais à certains moments, on a pu aussi se faire entendre. Donc voilà, il va falloir qu'on soit à la hauteur. On a bien l'intention d'être à la hauteur. Il y a des dossiers majeurs, immédiats. La question du pouvoir d'achat, des salaires. Et puis, évidemment, le sujet des retraites. Là, on pense qu'on va avoir affaire à quelqu'un de difficile sur le sujet, d'autant que le dossier est porté par le président de la République.
Le patron de FO, Yves Verrier, avec Victor Mattey. Et à l'heure du bilan d'Elisabeth Borne au ministère du Travail, les derniers chiffres du chômage ce matin, dévoilés à l'instant par l'INSEE. Au premier trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi est quasi stable, taux de chômage à 7,3%. On y revient en détail dans le journal de 8h. 2h30 de débat houleux et à l'issue un vote serré, 29 voix pour, 27 contre. Le conseil municipal de Grenoble donne son feu vert au port du burkini dans les piscines publiques de la ville, malgré des divisions au sein même de la majorité du maire écologiste Éric Piolle. Le préfet de l'Isère avait prévenu dès dimanche qu'il saisirait la justice administrative si cette délibération était adoptée. Quant au président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, il annonce lui la suspension de toutes les subventions régionales à la mairie de Grenoble face à ce qu'il qualifie de séparatisme. Ils étaient sur la scène du Bataclan le 13 novembre 2015. Deux membres du groupe Eagles of Death Metal sont attendus aujourd'hui au procès des attentats. L'audience reprend après une nouvelle suspension pour Covid. Et Charlotte Pirel, les musiciens américains, font partie des dernières victimes à témoigner cette semaine.
Parce qu'ils étaient sur scène, ils font partie de ceux qui, les premiers, ont vu se détacher les silhouettes des trois terroristes. Rapidement, les Eagles of Death Metal parviennent à s'échapper du Bataclan. Arthur Desnouveau, survivant de l'attaque lui aussi, les aide à prendre un taxi. Depuis, il est devenu leur ami et échange régulièrement avec eux.
En tant qu'Américains, ils ont été assez loin des préparatifs du procès. Et en fait, quand le procès a démarré, voir comment le procès se déroulait, en avoir des échos par les victimes avec lesquelles ils sont amis, les ont amenés à se dire qu'ils avaient sûrement quelque chose à venir dire.
D'ailleurs, le chanteur Jesse Hughes a beaucoup réfléchi au témoignage qu'il s'apprête à livrer aujourd'hui devant la cour d'assises.
Il se sent un lien très particulier avec la France et une fierté de voir la France s'être relevée. C'est sa conviction et la France être capable d'organiser ce procès. Donc je pense que son propos va beaucoup être centré là-dessus. Et ensuite, c'est quelqu'un d'extrêmement croyant. Sa maman lui dit que pour avancer dans la vie, il faut savoir pardonner. Et je pense qu'une des questions que se pose Jesse Hughes, c'est de savoir s'il peut pardonner aux terroristes et donc aux gens dans le box.
Le chanteur des Eagles of Death Metal, qui par ailleurs porte, dit-il, le poids de la culpabilité d'être celui que les victimes décédées du Bataclan était venu voir ce soir-là.
Charlotte Piret, un sympathisant d'extrême droite mis en examen et écroué à Paris, soupçonné d'avoir tué par balle un jeune homme lors d'une rixe le week-end dernier dans le 17e arrondissement de la capitale. Le suspect est connu pour avoir relayé des thèses complotistes, antisémites, mais aussi tenu des propos confus sur la politique sanitaire en France, notamment sur le plateau de C8. En Libye, des affrontements signalés ce matin à Tripoli. Le gouvernement de l'Est du pays, soutenu par le maréchal Haftar, vient d'annoncer son entrée dans la capitale.
Mais à Tripoli siège déjà un autre gouvernement rival, dirigé lui par l'homme d'affaires Abdelhamid Dbeiba.
Il est 7h39 en Méditerranée, Alexis. La langouste rouge pourrait être sauvée grâce à une prouesse scientifique.
Oui, que l'on doit à des chercheurs du CNRS et de l'université de Corse. Depuis 2 ans, ils réussissent à élever des petites langoustes. Un exploit, seuls 2 laboratoires sont capables de le faire dans le monde. Et c'est une bonne nouvelle pour une espèce très menacée qui a décliné de 80% en 50 ans en Méditerranée à cause notamment de la surpêche. Théo Baucher, les scientifiques espèrent maintenant une réintroduction d'ici à 5 ans grâce aux œufs qu'ils gardent précieusement.
À partir de prélevés sur des langoustes femelles, les chercheurs corses font grandir ces bébés langoustes. Elles ne font qu'un centimètre aujourd'hui, mais la technique de reproduction fait ses preuves pour le directeur de recherche Antoine Aiello.
Ce qui est important, c'est qu'on arrive à avoir vraiment un très bon taux de survie. On est passé de 3 à 33% de survie. Et on pense avoir identifié des paramètres déterminants. La bonne alimentation, les bonnes températures, pour arriver à obtenir des résultats qu'on peut présenter aujourd'hui.
Par rapport à l'année dernière, ils ont fait grandir davantage d'individus juvéniles de stade 1 et 5 sont même arrivés au stade 2. Il y a 7 stades en tout avant l'âge adulte, mais l'espoir est grand.
Le Graal, si vous voulez, c'est d'obtenir suffisamment de juvéniles pour pouvoir envisager une restauration écologique.
Réintroduire en milieu naturel, car la langouste rouge représente à elle seule 70% des revenus de la pêche corse. Cette avancée scientifique est donc essentielle, explique Jessica Dijoux, directrice du comité régional des pêches.
Cette évolution va nous accompagner pour la gestion future de la langouste, qui a eu surpêche, pollution, qui a pu entraîner ce déclin aussi rapide. Les pêcheurs ont conscience qu'il faut la préserver. Je ne pense pas que l'idée soit de pêcher plus, mais peut-être pêcher mieux.
Cela permettrait en plus de limiter les émissions de carbone de la pêche corse, car qui dit plus de langoustes disponibles, dit moins d'efforts des pêcheurs pour en attraper dans leur casier.
Et toujours au bord de la Méditerranée, l'ouverture du 75e Festival de Cannes aujourd'hui. Enfin une édition normale après l'annulation de 2020 et un report de quelques mois l'an dernier. 21 films sont en compétition pour la Palme d'Or. Hors compétition, c'est le dernier film de Michel Hazanavicius, Coupé, qui sera diffusé en ouverture ce soir. Une histoire loufoque de zombies, a priori pas très cannois, mais apparemment très drôle.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre sur Internet.